Masechet Yevamot, résumé du Dav Kuf Yud Dalet. La Gemara ici commence par l'histoire de Rav Yitzhak Bar Bishna. Un chacham avait perdu ses clés au Reshut Arabim, les clés du Beit HaMidrash, il les avait perdues dans le Reshut Arabim, dans un domaine public pendant Shabbat. Il ne savait pas quoi faire. Il est allé demander conseil à son maître, à Rabbi Pedat, qui lui a dit « Va promener là-bas un enfant, des enfants, et ils vont trouver les clés, ils vont te les amener. » Et de là, la Gemara ouvre un grand sujet. Un enfant qui fait une avera, comme ici, il porte pendant Shabbat au Reshut Arabim, est-ce qu'il faut l'empêcher ou on n'a pas besoin de l'empêcher? Ici, on voit qu'on n'a pas besoin d'empêcher. Donc, si tu vois un enfant même manger pas kasher, tu n'as pas besoin de le déranger, de l'empêcher. Et la Gemara ramène là-dessus plusieurs preuves de toutes sortes de Mishnayot et Braitot, dans un sens ou dans l'autre, pour prouver cette question-là, est-ce qu'on doit l'empêcher ou pas? Donc, on voit par exemple, on a une breta qui dit, par exemple, on n'a pas le droit de dire à un enfant, amène-moi la clé, amène-moi mon anneau du Reshut Arabim, mais s'il voit l'enfant faire des avérotes pendant Shabbat, il va cueillir des fleurs, il va jeter, on n'a pas besoin de l'empêcher. La Gemara repousse les preuves, il s'agit d'une manière qui n'interdite que Midera Banan. Deuxièmement, on voit un enfant qui vient éteindre l'incendie, on doit l'empêcher. Donc tu vois qu'on n'a pas le droit de laisser un enfant faire une avera. À nouveau, la Gemara répond, c'est parce qu'il fait sur l'intention de son père. Il fait ça parce qu'il sait que son père en a besoin. S'il fait ça pour lui-même, on n'aurait peut-être pas besoin de l'empêcher. La Gemara ramène encore des Braitot qui disent, un enfant qui mange quelque chose qui est peut-être pas cachère, on n'a pas besoin d'empêcher. À nouveau, la Gemara, elle dit, on ne craint pas, ce n'est qu'un problème des Rabbanan. Là-bas, il s'agit des fruits qui n'ont pas été prélevés forcément correctement par un Maharetz, mais on suppose que ça a été fait correctement. Dans un des Rabbanan comme ça, on peut laisser. De même, il revient avec de la Trouma, on devrait craindre qu'elle ait une Trouma Tmea, répond la Gemara à nouveau, c'est des Rabbanan, et ainsi de suite. À chaque fois, la Gemara répond que si on ne l'empêche pas, c'est parce que ce n'est qu'interdit mis des Rabbanan, donc on n'a pas besoin d'empêcher. La Gemara ensuite ramène des psukim, où on apprend là-bas qu'il interdit, donc Minatora, de faire manger des enfants pas cachers, comme des insectes, comme du sang, ou bien de rendre tamé un enfant Cohen en le rentrant dans un cimetière. C'est interdit tout ça, Minatora. Et donc tu vois de là qu'un enfant qui mange pas cachers, il faut l'empêcher. Et la Gemara repousse, non, s'il mange de lui-même, on n'a pas besoin d'empêcher, mais c'est nous qui n'avons pas le droit de lui donner, de lui servir à manger quelque chose qui n'est pas cachère. Et la Gemara explique pourquoi j'ai besoin de ces trois psukim-là, que dans ces trois cas-là, on a besoin, on ne peut pas lui donner, lui servir du issour. Après tout ça, la Gemara ramène notre Mishnah. On voit à propos d'un Cheresh qui s'est marié avec une femme normale, un sourd, donc qui s'est marié avec une femme normale, ou le contraire, un homme normal qui s'est marié avec une femme sourde, ou bien un sourd qui s'est marié avec une sourde, il se retrouve maintenant dans une situation où il est obligé de divorcer sa femme parce que son mariage n'est que Midera Banan, alors que est tombé un Yiboum devant lui, une Yevama, qui est la sœur de sa femme. Et ce Yiboum-là, il est tombé Minatora devant lui, et donc ça remet en question son mariage avec sa femme qui devient tout d'un coup la sœur de sa Yevama. Donc la Yevama, il ne peut pas la prendre parce qu'elle est la sœur de sa femme, mais sa femme non plus, il ne peut pas la garder parce qu'elle est la sœur de sa Yevama. Dans un cas normal, d'un mariage normal, on aurait dit sa femme met dehors sa sœur. La femme du Yavam met dehors sa sœur la Yevama. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, puisque le mariage n'est que des Rabbanan et que le Yiboum est en principe Minatora, enfin même dans ce cas-là, donc finalement, au contraire, c'est la Yevama qui met dehors sa sœur de chez son mari. Et donc effectivement, il doit la divorcer en lui donnant un guet. Mais la question qui se pose, le Cheresh et la Cherechette n'ont pas de conscience pleine. C'est comme des enfants qui font une avera. Et pourquoi tu dois les empêcher de rester ensemble? Répond la Gemara que, effectivement, en principe, on n'aurait pas eu besoin de les empêcher. On n'avait pas besoin de les empêcher de rester ensemble. Ils pouvaient rester ensemble. Simplement, exceptionnellement, ici, il a fallu les séparer de manière à ce qu'il soit bien clair que le problème de la Yevama n'a pas été résolu. Parce que s'ils restaient ensemble, j'aurais cru que la Yevama est mise dehors à cause de sa sœur, qui est mariée avec le Yavam. Mais puisque on les a séparés, tout le monde comprend donc que la Yevama n'a pas été mise dehors, au contraire, c'est elle qui a mis la femme du Yavam dehors, sa sœur. Donc, pour une raison spéciale, les Chachamim ont dit de les séparer. Mais sinon, peut-être qu'on ne sépare pas un enfant qui est en train de faire une avéra, on n'a pas de preuve d'ici non plus. Et donc, la Gemara laisse le sujet un peu ouvert, en repoussant toutes les preuves dans un sens ou dans l'autre. Et là, le tel Pérec s'est terminé, on commence le 15e Pérec, qui va traiter le problème d'une Aguna. Une Aguna, c'est une femme dont le mari a disparu, on ne sait pas ce qu'il devient, où il y a un témoignage léger, il faut savoir si on peut s'appuyer sur le témoignage ou pas. Donc une femme qui vient dire que son mari est mort, on la croit en principe, elle peut se remarier, elle peut faire même Yiboum. Mais si par contre il y avait, c'était un temps de guerre, et qu'elle vient dire que son mari est mort, je crains qu'elle s'imagine qu'il est mort. Elle s'imagine pas qu'il a survécu la guerre, qu'il s'est sauvé, qu'il a été bien traité, guéri. Et donc si elle a vu qu'il a été frappé à la guerre ou quelque chose qui lui semble être la preuve qu'il est mort, elle va témoigner qu'il est mort sans vraiment bien se renseigner jusqu'au bout. Et donc on ne peut pas la croire. De même, une femme qui est en dispute avec son mari qui vient dire qu'il est mort, à nouveau on ne la croit pas parce qu'on craint que c'est pas vrai. La Gemara ramène ce que Rabbi Houda dit, que la femme n'est crue que si vraiment elle vient en pleurant et les habits déchirés, mais les Chachamim lui ont dit que dans tous les cas, si elle dit que son mari est mort, elle peut se remarier. La Gemara rentre dans les détails de plusieurs choses qui ressemblent à la guerre. Est-ce que dans ces cas-là aussi, on dira que la femme s'imagine qu'il est mort et qu'on ne peut pas la croire? Dans un cas de famine, par exemple, la Gemara dit, une femme qui vient dire que son mari en temps de famine est mort par la famine, est mort de faim, on ne la croit pas. De même, dit la Gemara, dans un cas où une maison s'est écroulée sur son mari, elle vient dire qu'il est mort, on ne la croit pas. Il y a eu des serpents ou des scorpions qui sont venus attaquer des gens, et à nouveau elle dit qu'il est mort, on ne la croit pas, c'est comme une guerre, elle s'imagine. S'il y a une épidémie et qu'elle dit qu'il est mort là-bas, la Gemara ramène dessus deux versions, si on peut la croire ou pas. On pourrait dire que la femme ne suppose pas que son mari est mort, ne s'imagine pas qu'il est mort de l'épidémie sans l'avoir certifié, parce qu'il y a un proverbe qui dit « 7 ans, il y a l'épidémie, et un homme ne meurt pas avant son temps. » Donc, il se peut qu'une femme qui vient dire qu'il est mort, c'est qu'elle l'a vu, parce que sinon, elle n'aurait pas dit facilement qu'il est mort de l'épidémie. Les gens savent que ce n'est pas une raison de mourir avant son temps, donc elle ferait vraiment attention à ce qu'elle dit.